Chapitre 30. Les vœux. Quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou quand il aura fait un serment pour lier son âme par une obligation, il ne violera pas sa parole, il fera selon tout ce qui sera sorti de sa bouche. Verset 3. Telle était la loi sur les vœux. L'homme qui avait fait un vœu était obligé d'accomplir toutes les choses qu'il avait dites, quelles qu'elles soient. Le Seigneur Jésus, dans sa grâce parfaite, s'est volontairement engagé à accomplir la volonté de Dieu, malgré les indicibles souffrances qui devaient être sa part. Et si, au jardin de Gethsémané, dans l'angoisse de son âme, il s'écrie « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi », il ajoute aussitôt « Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux ». Matthieu 26, verset 39. Il avait entrepris l'œuvre du salut de l'homme. Il devait traverser les eaux profondes de la mort, du jugement et de la colère. Il devait affronter toutes les conséquences de la condition de l'homme. Et si une femme a fait un vœu à l'Éternel et qu'elle se soit liée par une obligation dans la maison de son père dans sa jeunesse et que son père ait entendu son vœu et son obligation par laquelle elle a obligé son âme et que son père ait gardé le silence envers elle, tous ses vœux demeureront obligatoires. Et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a entendu parler, aucun de ses vœux et de ses obligations par lesquels elle a obligé son âme ne demeureront obligatoires. Et l'Éternel lui pardonnera, car son père l'a désapprouvé. Versets 4 à 6. La même restriction s'appliquait au cas d'une femme mariée. Son mari pouvait confirmer ou annuler tous ses vœux ou tous ses serments. Dans le cas de la femme qui fait un vœu, fille ou épouse, on peut voir une figure de la nation d'Israël qui s'est engagée imprudemment à accomplir tous les commandements de la loi. Ses vœux l'ont placée dans une position de responsabilité particulière, de sorte que jusqu'à maintenant, la nation en subit les conséquences. Le sage dit: mieux vaut que tu ne fasses point de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ecclésiaste 5, verset 5. Chapitre 31. La vengeance de l'Éternel sur Madian. Nous avons ici la dernière phase de la vie officielle de Moïse, alors qu'en Deutéronome 34, nous avons la fin de son histoire personnelle. Et l'Éternel parla à Moïse, disant: exécute la vengeance des fils d'Israël sur les Madianites, ensuite tu seras recueilli vers tes peuples. Et Moïse parla au peuple, disant: équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, afin qu'ils marchent contre Madian, pour exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. Et on détacha 12 000 hommes équipés en guerre, et Moïse les envoya à l'armée, 1000 par tribu, à la guerre, eux et Phinée, fils d'Éléazar le sacrificateur. Et il avait en sa main les ustensiles du lieu saint, savoir les trompettes au son éclatant. Et ils firent la guerre contre Madian, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Versets 1 à 7. C'est un passage très remarquable. L'Éternel dit à Moïse: exécute la vengeance des fils d'Israël sur les Madianites. Le peuple avait été séduit par les ruses des filles de Madian à cause de l'influence pernicieuse de Balaam. Et maintenant, ils sont appelés à se purifier entièrement de toute souillure qu'ils avaient contractée par manque de vigilance. L'épée doit être tirée contre les Madianites. Tout le butin qui sera pris doit passer soit par le feu du jugement, soit par l'eau d'aspersion. Tout le mal doit être jugé. Or, cette guerre avait un caractère spécial. Ce n'était pas une des guerres de Canaan, mais le résultat de leur propre infidélité et de leur commerce impie avec les filles de Madian. De là, quoique Josué, fils de Nun, ait été établi pour succéder à Moïse comme conducteur de l'assemblée, il n'est pas fait mention de lui dans cette guerre. Au contraire, la conduite de cette expédition est confiée à Phinée, fils d'Éléazar, le sacrificateur, qui l'entreprend avec les ustensiles du lieu saint et les trompettes. Tout ceci est caractéristique. Le sacrificateur est la principale personne. Les ustensiles du lieu saint sont les instruments principaux. Il s'agit d'effacer la souillure produite par une association impure. Par conséquent, au lieu d'un général avec la lance et l'épée, c'est un sacrificateur avec les instruments du sanctuaire qui apparaît au premier plan. Or, ce sacrificateur est l'homme qui, le premier, exerça le jugement sur le mal dont on devait maintenant tirer vengeance. La leçon morale de tout ceci est claire. Les Madianites offrent un type de l'influence que le monde exerce sur le cœur des enfants de Dieu, du pouvoir fascinateur et séducteur employé par Satan pour nous empêcher de jouir de notre part céleste. Israël aurait dû ne rien avoir à faire avec ces Madianites, mais ayant été par manque de vigilance entraîné dans cette association avec eux, il ne lui restait plus qu'à les combattre et à les détruire entièrement. Il en est de même de nous comme chrétiens. Notre devoir est de traverser ce monde comme des pèlerins et des étrangers, n'ayant rien à y faire, sinon d'être les témoins patients de la grâce de Christ, et ainsi de briller comme des lumières au milieu des ténèbres morales environnantes. Mais, hélas, nous manquons dans le maintien de cette séparation rigoureuse, nous nous laissons entraîner dans des alliances avec le monde, et, par conséquent, nous nous trouvons embarrassés dans des ennuis et dans des luttes qui ne nous appartiennent pas. La guerre avec Madian ne faisait pas partie de l'œuvre proprement dite d'Israël. Ils se l'étaient attirés eux-mêmes. Mais Dieu est plein de grâce. C'est pourquoi, par une application spéciale du ministère sacerdotal, ils purent non seulement vaincre les Madianites, mais encore emporter beaucoup de butins. Dieu, dans sa bonté infinie, tire le bien du mal. Il daigne même accepter une portion des dépouilles prises aux Madianites. Néanmoins, le mal doit être entièrement jugé. Que Dieu nous rende capables de suivre un sentier de séparation plus complète et de poursuivre notre course céleste comme ceux dont la portion est en haut.